les deux autres. C'est celui que j'ai mis dans l'épisode où j'étais pas là. Je me suis trompé de fichier, ça marche bien.
Ouais, c'est pas mal.
Comment choisissez-vous ? Ça me rappelle l'ancien générique de Fiction en fait qui s'appelle dedans. Ça marche bien.
Ouais. Comme quoi ?
Comme quoi ? Je connais une bière avec au kumquat qui est très très bon. C'est très bon ça, le kumquat. Bon.
Là, je découvre la Pélican que j'avais jamais bu et qui est très bonne.
Ouais, 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 je vois laquelle c'est. Voilà, vous êtes dans Monsieur Cerier et bière. Voilà. Ou face bière.
Ils en ont fait un film, l'affaire Pélican.
C'est ça.
Moi, j'avais des stylos.
La bière est meilleure que le film.
J'avais de l'encre Pélican aussi.
Oui.
Pour les stylos plumes. Bon, non, c'est pas ça le sujet. Phase B, épisode 13, saison 2. Oui, voilà. Hein. J'ai été revérifié avant quand même. Avec moi ce soir, il y a Olivier et Florian.
Salut.
Bonsoir.
Et le thème de ce soir, ça va être la musique. Donc on va parler de la Star Academy, ou de France Gall, ou de... Voilà. Ce que vous voulez. Non, de musique, mais pas que, parce que globalement, voilà, on a fait d'autres choses culturellement. Olivier, je te donne la parole pour commencer. Qu'as-tu fait d'autre culturellement?
C'est
pas forcément de la musique.
C'est alors en dehors des séries, c'est un peu compliqué parce que j'ai quand même passé
la semaine
à Sériemania, donc j'ai pas fait beaucoup d'autres choses que de regarder des séries.
T'as mangé aussi.
J'ai mangé des frites et j'ai bu de la bière, donc j'avais pas beaucoup de temps pour le reste de la culture.
Hashtag la vie.
Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, la semaine d'avant, juste avant de partir à Lille, j'ai vu un film qui m'a beaucoup beaucoup impressionné, qui s'appelle La salle des profs, et qui est un film allemand. Et qui est assez étonnant parce qu'en fait, c'est un film qui a décidé de se servir du quotidien de l'école pour créer un thriller qui, moi, à mon avis, est presque horrifique tellement j'étais stressé en regardant le film.
Ah, c'est des profs.
Ouais, bah, c'est un peu ça parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un établissement où allemand donc. Où en fait il se passe des vols mais pas grand chose hein, c'est des petits vols par-ci par-là, mais donc les profs essayent de trouver qui fait ces vols, mais il y a une professeure qu'on suit principalement et qui elle pense que ça vient pas forcément des élèves mais que ça vient des profs. Donc il y a une espèce d'atmosphère de paranoïa qui commence à imprégner l'établissement et en fait c'est tellement bien réalisé et c'est tellement bien incarné par les comédiens que en fait cette paranoïa elle est vraiment très contagieuse et on finit par être très tendu pour des sujets qui sont somme toute assez c'est assez banal quoi, c'est pas des gros vols, c'est des petites sommes d'argent qui partent par-ci par-là, le truc c'est que cette paranoïa en fait elle va faire monter la sauce et en fait il y a des choses beaucoup plus tragiques qui vont se créer et vraiment moi c'est un film que j'ai trouvé excellemment bien réalisé. C'était j'y suis allé un peu sans trop savoir de quoi ça allait parler et ça m'a mis une grosse claque et comme on dit en allemand et
une colossale claque.
Et vraiment, c'est un film que je recommande parce que je trouve que dans un paysage cinématographique parfois un peu tiède, là j'ai une, il me semble que c'est une réalisatrice, j'ai plus les noms en tête, mais il y a un réalisateur ou une réalisatrice, je sais plus, qui prend un vrai parti pris et qui le tient jusqu'au bout. Et franchement, je suis ressorti de là un peu sans voix, et ça m'était pas arrivé depuis longtemps au cinéma, donc voilà. Donc je vous conseille d'aller voir. Je pense qu'il doit encore passer dans quelques cinémas, mais il est sorti malgré tout il y a 2 ou 3 semaines. Donc je suis pas sûr qu'ils soient encore très disponibles, mais si jamais vous le voyez passer sur des plateformes, sur des trucs comme ça, vraiment je vous conseille de jeter un œil parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est un très bon prisme pour parler de plein de choses qui vont pas dans la société, le racisme, l'éducation, l'école publique, voilà le comment apprendre les choses aux enfants, comment parler à des enfants, comment se comporter face à des enfants. Et je peux vous dire que moi, en regardant le truc, je me disais, mais jamais je serais prof, en fait, quel enfer, quoi. C'est tellement. On ressent tout ce que peut ressentir, toute la peur que peut ressentir un prof devant une classe qui décide de se payer le professeur, quoi. Donc voilà, il y a des scènes qui sont très très marquantes et un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui mérite beaucoup mieux que ça, quoi.
Je viens de vérifier, il n'est absolument sur aucune plateforme actuellement.
Non, non, il est sorti au cinéma il y a 2 semaines, je crois. Donc, à mon avis,
Je
il est
vois, je
encore.
vois, je vois un truc 2023, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah ouais, il est chez Ciné 4, c'est un truc de cinéma.
Il est peut-être sorti en Allemagne en 2023, hein, après.
Je crois que c'est ça.
Peut-être, c'est peut-être ça.
Mais je pense qu'il a mis un peu de temps à être
Je
distribué
vois.
en France. Mais.
Je vois, il est dans certains cinémas et effectivement,
Mais c'est un film qui a plutôt
on
bien
doit
marché en
rester.
festival. Et je comprends pourquoi, parce que je pense qu'une fois qu'on a vu ce film-là, je pense que les autres films de la sélection doivent être un peu fades. Mais
D'accord.
voilà, c'est vraiment. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, voire le meilleur film que j'ai vu depuis janvier, là.
Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Et c'est tout pour toi?
Oui.
Oui. De mon côté, ça va aller rapide et puis je ferai un pont vers notre ami Florian. Dernièrement, moi, j'ai commencé un petit jeu. J'en parlerai plus tard parce que là, j'ai vraiment fait que commencer. Qui s'appelle This Bed We Made, qui est sur PC, PlayStation et Xbox et qui est en fait un jeu d'enquête où on incarne une femme de ménage dans les années 50. Qui travaille dans un hôtel et donc elle va enquêter sur un crime et elle va commencer à essayer de faire des liens entre les différents protagonistes, leurs histoires d'amour, leurs relations, etc. Tisser des liens entre tout le monde pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc une espèce de Whodunit dans les années 50 et où on incarne justement voilà une femme de ménage et c'est plutôt cool jusque-là. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est vraiment très 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 joli, très simple. C'est sorti en novembre 2023 et ça coûte à peu près 24 euros. Donc, mais voilà, j'en dirai plus le jour où je l'aurai terminé. Sinon, je me suis tombé dans un de mes fameux trous bizarres de musical, c'est-à-dire que je suis tombé en amour avec un morceau du groupe Jefferson Starship, qui s'appelle No Way Out, et Jefferson Starship, en fait, en cherchant un peu ce qu'ils ont fait d'autre, etc., je me suis rendu compte que, oh, ben, en fait, c'est des anciens de Jefferson Airplane, qui ont monté un autre groupe, qui après s'appelait Starship, que je connaissais aussi, mais qui s'appelait Starship, pourquoi? Parce qu'en fait, les détenteurs du nom de Jefferson Airplane voulaient pas qu'ils utilisent Jefferson, puis ils sont devenus Starship, puis ils sont redevenus Jefferson Starship, en fait, c'était le bordel, comme ça, ils ont changé 2, 3 fois. Tout ça pour dire que je suis tombé dans une discographie qui n'en finit plus dans tous les sens. Et No Way Out, le morceau que j'aime vraiment beaucoup, qui me fait énormément penser à un morceau de j'allais dire Foreigner, mais non, c'est pas Foreigner. Merde, je viens de le perdre. Je vais revenir dessus, mais ça me fait penser à un autre morceau par rapport à ses pianos et ses guitares. Qui en fait marque vraiment le tournant très radio-friendly commercial du groupe, sans pour autant être dégueu, hein. Mais il faut savoir que juste avant ils faisaient des trucs un peu plus politiquement engagés, voilà, là ça l'est un peu moins, mais ouais, c'est Journey, voilà, ça me fait penser, ça me fait, c'est pas Foreigner, c'est Journey. Donc il y a un morceau où le piano est quasiment à la note près, c'est identique. Je suis tombé là-dedans et je trouve ça très cool. Ça m'arrive comme ça de temps en temps. T'écoutes un morceau, puis tu fais écouter le reste, et puis là t'es foutu. Tu tombes sur les clips, tu vois que les clips ils sont tournés sous LSD. Tu dis bah c'est sympa, je vais regarder d'autres et voilà, ça c'est une petite découverte, mais j'en reparlerai peut-être dans un autre phase B ou plus tard, on verra. Et tout ça me vient à la musique, n'est-ce pas Florian? Parce que
oui, enfin j'ai écouté pas mal de choses moi-même. Hein. Ouais. Mais j'ai écouté juste. Aujourd'hui, un hippie d'une rappeuse britannique qui s'appelle Little Sims et qui a sorti un hippie qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a fait auparavant, qui est très très axé.
Après Jefferson Airplane, c'est normal qu'il y ait des hippies.
Oui.
T'avais coupé ton micro, j'étais sûr que t'étais en train de réagir à ça.
Et ouais, et du coup c'est vraiment très très recommandable comme à peu près tout ce qu'elle fait. C'est donc là c'est dispo là, donc c'est 7 titres et c'est vraiment très bon. Enfin, c'est une des meilleures artistes de rap actuellement dans le monde, peu importe. Enfin même rappeuse, bon clairement elle est très 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 au-dessus de la mêlée. Ça s'appelle Drop 7. Okay. C'est très très axé électro, c'est très expérimental, c'est beaucoup plus industriel que ce qu'elle a fait auparavant, qui était beaucoup plus du hip-hop, très très bien produit mais un tout petit peu plus classique. Et là c'est vraiment avant-gardiste et c'est très 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 réussi. Donc voilà, enfin c'est vraiment la surprise du printemps qui confirme la suprématie d'une artiste britannique, en fait, qui je pense qu'il va aller très 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 loin. Voilà.
Donc c'est Little Sims.
Little Sims Drop 7, c'est sorti le mois dernier.
Ok, très bien. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses avant qu'on ne passe un petit mot sur un sujet commun?
C'est déjà pas mal, ouais, non.
Donc il y a un sujet commun, c'est-à-dire que pendant un moment, on aurait pu avoir, dans la discussion hors intro, discuter du dernier album de Justin Timberlake. On va en discuter, pas pour en dire du bien.
Un peu quand même, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup. Et en fait, à force de l'écouter, d'aller au-delà des sonorités, d'aller du côté des paroles, tout ça, ça a raccroché, et d'en discuter, ça a raccroché en fait avec la personnalité de la personne avec sa personnalité qui est de plus en plus comment dire, le tonton gênant, on va l'appeler comme ça pour rester gentil, le daron gênant, alors, le tonton gênant.
Alors moi j'ai pas suivi, c'est quoi les histoires là?
Il y en a plein. Il y en a beaucoup trop, il se traîne des casseroles pas mal entre autres. Bon, il y a eu l'histoire avec déjà avec Janet Jackson, ça remonte. Mais des trucs sont remontés, etc., qui prouvent que globalement c'était totalement fait exprès et voulu, que lui il s'en est bien sorti, beaucoup plus difficilement, voire pas. Il y a les histoires avec Britney Spears, avec le fait qu'il est forcé à avorter, le fait que quand tout le monde essaie de lui demander de s'excuser, sa réaction c'est de clairement en public dire ben, je ne m'excuserai pour personne. Voilà, de te faire croire qu'il va s'excuser, mais en fait pas du tout. Le côté possessif, le côté gênant, il se remet pas en question, et c'est une personnalité qui est plus en plus limite dans ses choix, et ça fait écho avec ce dernier album qui globalement c'est une ode à lui, et ses travers. Oui, non, mais que ce soit l'ode à soi, c'est une chose, mais c'est l'ode à lui et ses travers dans une période où, globalement, ses travers, lui, mettent des casseroles Tefal de haute qualité. Donc, pour te donner une autre idée, le single qui est sorti, un des singles qui est sorti en premier, s'appelle Selfish. Et qui en gros, ben, c'est clairement ça. C'est une chanson sur sa femme, hein, Jessica Biel, où en gros, Il peut pas l'avoir ailleurs, il peut pas enfin respecter le fait qu'elle ait une vie globalement, elle est à lui, c'est son objet quoi. Donc toi c'est
Ouais.
mais ça, si c'était que ça, n'est-ce pas, Florian?
Et c'est chanté de manière assez mignonne, sauf qu'en fait la production est extrêmement ronronnante, hein, et même dans le contexte de l'album, en fait, c'est le problème de cet album, et enfin c'est ce dont on a énormément discuté avec Fred hors antenne, puisque donc Fred a écouté l'entièreté de l'album, et moi je l'avais pas forcément fini avant le début de semaine dernière, et là je l'ai à nouveau réécouté une troisième, quatrième fois ce week-end. C'est un long album, il y a 18 titres. Du coup, enfin, quand j'étais en train de
Qui
dire,
commence par un morceau très mauvais.
qui s'appelle Memphis, qui
Ouais.
voilà Tennessee, pour rappeler que oui,
Il vient de Tennessee.
ce monsieur a une vraie street cred en ayant grandi dans les églises du Tennessee et de Memphis, où il a entre autres appris à chanter le gospel et le R&B. Et c'est pour ça que, en fait, il sonne comme ça, assez soulful. Voilà. Ce qui était une histoire qui a déjà été racontée sur les précédents albums. En fait, je dirais, c'est la reco, en fait, ce qui est intéressant d'abord avec le titre, je vais essayer de vraiment faire synthétique parce que j'ai pas beaucoup de, enfin, j'ai quelque chose à dire, mais je vais essayer de pas trop partir dans les tangentes. L'album s'appelle Everything I Thought It Was. Le problème, c'est qu'il manque un petit, il manque quelque chose à cette phrase. Soit c'est This is, c'est tout ce que je pensais être. Soit This isn't everything I thought it was. Et en fait, il y a deux options. Si tu, everything I thought it was, si c'est This is, c'est-à-dire c'est l'affirmative, c'est un peu comme si tu étais au restaurant, que on te commande un super plat, que tu manges et que tu es satisfait. Ah ouais, ben en fait c'est tout ce dont je pensais être, et c'est là, ça serait voilà un album de quelqu'un, voilà quoi, qui est content d'être à ce point-là dans sa vie, 43 ans, marié à une super femme, avec deux gosses, avec le business qui va bien et tout ça. Ou alors this isn't everything I thought it was. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a une série de doutes qu'il va aborder sur l'album. Et quand tu écoutes l'album, tu réalises très très vite que ça correspond à un gars qui est content d'être là où il en est, d'être content d'être encore une superstar qui est encore en public, qui va se lancer dans une tournée mondiale et ainsi de suite, mais qui en fait n'a rien à raconter. Et quand il faisait l'annonce de son album, il disait, mais en fait, il y a quelqu'un qui écoutait cet album et il disait, ouais, ben en fait, ça ressemble à tout ce pourquoi on te connaît. Et comment dire? Du coup, Everything I Thought It Was est une réponse directe au flop commercial précédent de
Man of the Woods.
Men of the Woods, pardon, qui est sorti donc en 2018, ça fait déjà
6
6
ans.
ans, et qui était un espèce d'hybride, hein, entre pop, country, R&B, qui se voulait à peu près aussi avant-gardiste que les précédents albums de Timberlake. Il avait ramené Pharrell Williams à la production. Et du coup, en fait, et c'était aussi un album, voilà, quoi, qui était sincère, où c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire un hommage, en fait, encore déjà à son Tennessee natal.
À ses racines,
À
ouais,
ses
c'est ça. Ouais.
racines. Et dans l'ensemble, ça fonctionnait pas mal, sauf que l'album précédent et cet album-là ont les mêmes travers, c'est que les singles qui sont choisis sont vraiment nuls, sont vraiment très très, au pire très très moyens. Je suis certain que le single avec NSYNC, pardon, que la chanson avec NSYNC qui s'appelle Paradise, en fait, qui est
Oh
un
mon Dieu.
soporifique à donf,
Oui.
va être probablement choisi en tant que single. Surtout si, en fait, il considère faire une autre tournée avec NSYNC, ou s'il considère faire une reformation ou faire un album commun
Pour
à
l'instant, ils
nouveau.
sont juste en invité sur les sur ces
C'est
tournées.
ça. Bon, après, voilà, qui sait dans les 2 ou 3 ans à venir si, du coup, voilà, en jouant sur la nostalgie, ça va aller. Et du coup, Everything I Thought It Was, c'est un album qui est malheureusement conforme aux attentes. il y a un tout petit peu tout pour contenter tout le monde. Le truc, c'est qu'il est absolument partout et nulle part. Et surtout, au niveau du songwriting, il y a... C'est dans l'ensemble super plat. C'est pour c'est quelque chose, pour une voix qui est, pour une voix qui est super, enfin, pour une voix qui peut être super soulful, qui a fait ouais. des ballades, qui a fait des ballades super comme.
En dehors de la personne, artistiquement, dans sa voix, oui, il y a un truc. Sauf que là, c'est de la disco, pop, boogie, qu'on a déjà entendu mille fois, quoi.
Il s'essaie un tout petit peu à l'afropop en faisant venir un artiste qui s'appelle Fireboy DML, en fait. Ouais. Et tu ne sais pas que c'est sur l'album parce que du coup, tu écoutes le son et tu passes à la suite parce que ça n'a pas de contexte.
Il n'y a aucun lien.
Et c'est très très mal. Déjà, c'est très très mal séquencé. Ce qui n'était pas du tout le cas des quatre précédents albums, donc c'est un tout petit peu partout. Ouais. Il a enregistré une centaine de titres pour arriver à ces 18-là, mais clairement, il y avait... Je pense que c'est quelqu'un qui voulait à nouveau avoir des hits, avoir contenté un tout petit peu l'ensemble de son public, et qui en a oublié, en fait, que oui, tu peux être ambitieux, même si tu n'as forcément rien à raconter. Si tu vas... 10 ans en arrière, de 2020 Experience, ça aurait dû être un album super chiant d'un type qui avait trouvé The One, qui venait de se marier, etc. Ça n'avait pas à être aussi ambitieux avec des morceaux de 7 ou 8 minutes avec 2 ou 3 parties et aussi, aussi percutant que au moins la première partie l'était. Donc en fait, ce qui manque en fait à Everything I Thought It Was, c'est vraiment de l'inspiration et c'est aussi pas mal d'humilité. Il y a au moins 3 ou 4 ouais. titres qui sont assez réussis, qui ne viennent pas des réguliers en fait des producteurs, donc de Timbaland ne sert pas à grand chose, Danger en fait qui est un monstre de producteur ne sert pas trop à grand chose, et il y a une nouvelle team en fait de coproducteurs qui s'appelle Louis Bell et Circuit. Qui sont des mercenaires de la pop en fait, qui ont fait plein de titres de pop un tout petit peu à droite à gauche, donc ils sont ouais. Ils ont bossé avec Timberlake comme ils bosseraient avec n'importe qui d'autre, et c'est fatalement ce qui fonctionne le mieux, et notamment le dernier titre de l'album où en fait il menace en fait d'être à peu près honnête à dire ouais en fait si je fais plein de conneries est-ce que tu m'aimes toujours ma chérie, ce qui est à peu près le seul message qui est à peu près de la remise en cause. Mais en fait, c'est peu importe ce que le monde va dire, etc. Il y a si ma femme continue à m'aimer, tout va bien. Et clairement, je ne veux pas personnellement. Enfin, je ne souhaite pas que les artistes torturés ont tendance à faire la meilleure musique de leur carrière. Je ne souhaite pas que Timberlake connaisse un divorce, soit genre porté au nu, etc. Et tout. Alors qu'il a déjà énormément de casseroles. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il ponte de meilleurs albums, surtout que c'est un album qui est en travaillé depuis 5 ans. Ça fait depuis 2019 qu'il bosse sur ça pour sortir ça.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment... si tu ne retrouves pas, c'est un patchwork de plein de trucs et des trucs pas très très bons. Et moi, Man of the Woods, je reste sur le truc où, même si c'était un flop commercial... artistiquement, c'était quand même beaucoup plus intéressant au niveau des paroles et des thématiques, c'était plus intéressant, il y avait un vrai fil derrière avec des espèces de petits liants avec des sons un peu étranges qui comme si ça venait un peu de la forêt, des trucs comme ça, il y avait un univers, il y avait une ambiance et je l'ai vraiment beaucoup écouté mais le truc c'est que ouais, il pensait que les gens voulaient à nouveau des trucs comme Justified et Future Sex Love Sound et en fait ça a rien du tout de tout ça. C'est des ersatz de...
Et il ne sait plus les faire. Donc ça ressemble à du Jamiroquai, ça ressemble pas du Timberlake de la grande époque.
Non, voilà. Donc on en a quand même parlé, mais en fait finalement, c'est plutôt pour en dire... pas un avis mitigé, mais plutôt un avis assez négatif. On va pas en retirer grand-chose. Et puis j'aurais dû le savoir, hein, le premier morceau, Memphis, dès que tu l'entends, tu te dis « Waouh, c'est quoi cette soupe ?»
En fait, c'est ça qui était le plus important que j'ai oublié de dire, c'est que ma reco en fait, est une semi-reco, et si je recommande l'écoute de l'album, je pense que le meilleur moyen d'écouter de l'album, c'est de démarrer à Sanctified et d'aller jusqu'à la piste 18. Donc vraiment, d'écouter la seconde moitié de l'album. Ouais. La première moitié, ça en vaut pas trop la peine. Ouais, et non, encore, il y, y a Selfie chez le titre avec NSYNC, hein, donc c'est,
ouais,
c'est pas ouf, putain, mais il y a des trucs qui se tiennent.
Paradise, il faut se le fader. Hein.
Wow. Ouais.
C'est du miel avec du sucre et redu miel par-dessus, quoi. Et c'est écœurant.
Et après deux ou trois
Certified, écoutes... Certified, ouais, par contre, ça me fait beaucoup plus penser à ce qu'il a fait avec le 2020 Experience, et ça a une pêche. Mais ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, en fait, ça aurait été autant de pêche, hein, finalement.
Mais tu mets ça en perspective avec des mecs comme Usher qui vient de sortir un album de comeback qui pour le coup a été aussi mûri pendant des années, mais pour le coup est super fort parce que lui il a fait toute une tournée et tout, il sait précisément qui il est, il sait précisément ce que ses fans attendent, il sait en fait là où il peut aller sans on va dire aliéner sa base. Et honnêtement, enfin voilà, ce qui fait que du coup l'album de Usher dans l'ensemble il est aussi long mais il est assez réussi. Tandis que Timberlake va un tout petit peu partout pour se retrouver nulle part.
Ouais, c'est ça. C'est one too many. Voilà. Et puis alors, le résumé, c'est simple. Regardez, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné avec la critique dithyrambique de Jimmy Fallon face à Justin Timberlake dans un de ses late shows. En fait, tout ce qu'il dit, Fallon, vous le prenez à l'envers et vous avez la qualité de cet album. Voilà. Comme ça c'est fait. On en a parler.
Vous m'avez pas donné envie.
Bah c'était le but.
Bah déjà à la base
on t'a économisé 1h18 mais... quand même hein. 1h18
ouais.
L'album.
Ah ouais, non mais déjà j'ai jamais écouté un album de Justin Timberlake en entier moi donc.
Par contre, niveau musical donc ouais, je parlais de Jefferson Starship, c'est un style mais donc Timberlake est sorti, cet album là est sorti le 15 mars. Une semaine, jour pour jour après, le 22 mars, donc là on est le 25, donc c'est sorti il y a 3 jours. J'ai déjà eu le temps de l'écouter 5 fois. C'est dire à quel point j'ai accroché. C'est un autre artiste, ça va peut-être un peu diviser, il s'appelle Alain Chamfort.
Ah, voilà. Je m'attendais pas du tout à ça.
Et, alors,
et il a pas sorti un album Champ Faible.
Non, d'autant plus que c'est son dernier album. Il l'a dit. Il ne fera plus d'album, il ressortira peut-être encore des chansons, mais pas sous forme d'album, parce que, globalement, il l'a dit dans une interview, j'en ai marre de faire des albums pour qu'on en retienne que deux morceaux et ceux qui passent à la radio. Donc il a fait un album où, globalement, rien ne passera à la radio, c'est sûr. Et c'est tant mieux.
L'avantage, c'est que ces derniers albums qu'il a fait, il n'y avait même pas une chanson qui était retenue, donc...
Ah non, il y avait des très très bons trucs.
Non, mais je dis pas qu'il y avait pas des très bons trucs, mais je dis que.
Ah oui,
En gros, il passait pas à la radio, donc.
Non, mais ça on a fait depuis quelques années, ouais.
Donc là, l'avantage, c'est qu'il peut continuer à faire des albums, de toute façon.
Mais en tout cas,
à la radio.
Non, à part pour ses anciens hits, effectivement. Mais là, globalement, donc, c'est son 16e album. Donc à 75 ans, son 16e album qui est sorti le 22, qui s'appelle L'Impermanence. Voilà, donc c'est déjà la pochette avec ses fleurs sur fond bleu un peu bizarre, ça donne déjà une idée. Et puis on regarde qui est à la production, enfin à la coproduction, un certain Sébastien Tellier. Et on se dit ah, eh ben,
ooh,
imaginez la fusion parfaite. Mais c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble.
Il y a des pépites au bleu ou pas?
Non, mais en fait imagine l'univers déjà de Chamfort qui fusionne parfaitement avec l'univers de Tellier, dont un morceau qui était sorti sur un EP avec lui, qui s'appelle Whiskey Glass, qui est dessus. C'est un des trois morceaux, enfin des trois morceaux qui est resté dessus. Mais on a 11 morceaux, donc c'est déjà un peu plus digeste que les 18 de chez Timberlake, où on va aller sur des sons planants, spatiaux, électroniques, doucereux, poétique. Certains trucs, il ne les chante même pas. C'est plus un peu comme s'il récitait de la poésie. Et moi, j'ai passé l'écoute, toutes les écoutes, vraiment en mode. Ça me transporte complètement. Ça me fait vraiment voyager dans un univers que je connais pas, où il va parler un peu de tout ce qui se passe globalement dans le monde et des choses autant de l'amour que de la perte de gens qui sont chers, du fait de pouvoir toucher la grâce. Justement, c'est le single qui est sorti, je pense, La Grâce, de toucher la grâce sur des moments fugaces, des moments qui ont pas l'air comme ça très importants, mais qui globalement devraient l'être, hein, des moments partagés avec les gens qu'on aime, avec sa famille. Vraiment, c'est, j'ai trouvé ça d'une beauté totalement confondante. Vraiment, c'est, je savais pas encore en attendre, vraiment. Pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis son travail. Et là, j'ai été ouais, directement emporté. Et moi, ça, c'est un conseil, un coup de cœur énorme pour ce morceau-là. Enfin, ce morceau-là, cet album-là. Et les paroles, en fait, elles sont inventives. On s'y attend pas. Il y a pas des moments où on se dit, ah, ok, on sait ce qu'il va dire juste après. Non, il arrive toujours à prendre des contre-pieds. Et c'est décontenancant. Et puis en fait, maintenant, je me dis que c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Ouais, c'est marrant parce que je suis en train d'écouter vite fait là. C'est vraiment du Sébastien Tellier avec la voix de Jean-Paul.
Ah oui, tu l'entends. Tu l'entends. Tu vois vraiment, c'est deux personnes qui se sont rencontrées. Enfin, qui se sont rencontrées, c'est la première fois, encore une fois. Il y avait, comment ça s'appelait Ah là là, c'est. Oui, je crois que c'était Alain Chamfort produit par.
Un peu moins sur certains morceaux, mais les trois premiers, c'est vraiment toute la palette de Tellier, quoi. C'est-à-dire qu'on a le truc un peu évanescent sur la première chanson, on a le truc plus disco sur la troisième. C'est assez marrant, quoi.
Oui, mais voilà, c'est le deuxième travail qu'ils ont fait. En fait, le premier, c'était un EP qui s'appelait Alain Chamfort, produit par Sébastien Tellier, tout simplement. Voilà. Où il y avait quatre morceaux, pas trois, mais quatre morceaux, dont le Whisky Glass qui se trouve le huitième morceau de l'Impermanence. Et, je trouve aussi, c'est que c'est un album où la pochette, la couverture vraiment, elle n'a jamais aussi bien mis en image en fait l'impression qu'on a en écoutant un album. Hein, y a des albums comme ça, ils ont une pochette genre bah oui c'est un peu bof bof. Là il y a ça complète l'œuvre d'art qu'est cet album là. Donc je vous le conseille plus que vivement. Je sais pas à quel point vous aimez Alain Chamfort, à quel point vous détestez Alain Chamfort, j'en sais rien. C'est un artiste qui n'est pas simple.
En fait, c'est quelqu'un qui a fait des choses tellement différentes, en fait, dans
c'est sûr qu'entre Manu Reva et maintenant, c'est sûr.
Ouais, dans sa carrière, qui a tout le temps évolué, qui a tout le temps, qui a jamais été tellement dans les modes. Et qui a toujours testé des choses, donc forcément quand on teste des choses, bah il y a des choses qui sont moins bien que d'autres, quoi. Donc mais il y a aussi du coup il y a aussi des choses qui restent plus, quoi. Donc c'est bon, en tout cas c'est un mec que j'aime bien parce que il est c'est un gars qui est toujours resté dans son idée de développer des choses différentes.
Ah mais moi je trouve que c'est pour ça que je trouve que la rencontre avec Sébastien Tellier elle est aussi logique qu'intéressante, c'est que c'est un depuis longtemps c'est un maître de la mélodie. Il sait mettre de la mélodie, il sait sur des paroles. Ce que souvent on a, moi ce que je reproche souvent à des auteurs français, c'est qu'on aura des paroles, mais alors musicalement c'est pauvre. Ou alors musicalement, on a été singé des choses qu'on a déjà entendues et puis niveau paroles c'est assez pauvre. C'est personnellement, encore une fois, hein, on pourrait me faire mentir, oui, mais il y a lui, il y a elle, machin. Mais moi, c'est ce que je retrouve chez lui. C'est-à-dire qu'on a des rythmes et des mélodies qui sont vraiment, qui vont rester en tête, et des paroles qui vont te hanter. Pas qu'ils vont rester forcément en tête et que tu vas les chanter, mais des choses qui vont hanter, surtout dans les derniers albums. Dans les premiers, il y avait des trucs plus radiophoniques, on va dire. Hein. Mais il y a toujours eu cette maestria dans le fait de tourner des choses qui ont l'air super simples en des trucs beaucoup plus compliqués à l'écoute. Voilà. C'est ma reco d'aujourd'hui. Je pense que là j'ai un peu mieux vendu que Justin Timberlake.
Ça donne plus envie et plus,
oui, clairement.
Pour ce que j'ai entendu, ça correspond très bien à ce que tu as décrit là. Donc, j'écoutais d'une oreille avec ta voix de l'autre et ça fonctionnait.
Donc voilà, L'Impermanence, sorti le 22, c'est sur toutes les plateformes. CD et aussi vinyle, voilà. Donc pour ceux qui veulent, je pense que moi le vinyle, à un moment donné, il va rentrer dans ma collection parce que ça fait un, c'est un, ça, ça fait une jolie pochette aussi en plus. C'est un joli objet.
C'est clair. Voilà. C'est vrai que la pochette est très belle. Hein.
Ouais, la pochette, elle est vraiment. C'est le genre de truc, tu aimerais avoir ce genre de tableau aussi. Juste ça, la pochette, quoi. C'est simple et intriguant. Justement, Olivier.
Oui, alors moi, c'est marrant parce que je vais faire. Je vais vous parler d'une musique qui est complètement l'inverse, à peu près, de Alain Chamfort. Puisque c'est. Je vais vous parler d'une musique bien excitée. Et je vais vous parler notamment d'un groupe que j'ai découvert il y a très 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 peu de temps, puisque je l'ai découvert en alors qu'il faisait la première partie du groupe Idols. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui, nous t'avons vu au concert. J'ai extrêmement jalousé, Olivier.
Donc qui sont eux-mêmes un groupe de gros excités. Et en fait, il se trouve que j'ai rarement passé une première partie aussi intense. Ce groupe qui passait, il s'appelle Dits, et ils ont littéralement retourné la salle, et leur prestation, vraiment, elle s'est conclue par une acclamation générale de la salle, et ils nous ont bien chauffé avant Idols, donc c'était vraiment plutôt cool. Alors, qui c'est Dits? En fait, c'est 5 musiciens.
Comment ça s'appelle comment?
D-I-T-Z.
Ok.
Et c'est 4 musiciens et un chanteur qui sont originaires de Brighton, donc c'est un groupe anglais. Ils sont dans la lignée de tous ces groupes anglais que j'aime d'amour. Et ils font une musique qui peut facilement être qualifiée de post-punk. Mais en fait, quand on gratte, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en gros, il y a des moments qui sont très noise rock, il y a des moments qui sont très hardcore, mais voilà, on peut, j'ai l'impression qu'on peut tout regrouper sous l'appellation post-punk. C'est un groupe qui s'est formé en 2015. Et c'est seulement l'année dernière qu'ils ont sorti leur premier album, qui s'appelle The Great Regression, c'est pas facile à dire pour moi. Et rien qu'avec ce nom et puis la cover qui accompagne l'album, ça plante tout de suite le décor. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va aller vers quelque chose de très sombre.
J'irai plus loin. Il y a aussi la liste des titres. Il y a aussi I Am Kate Moss. Et le dernier titre s'appelle No Thanks, I'm Full.
Ouais. Je vais parler des deux titres tout à l'heure. Et donc ça plante tout de suite le décor, parce qu'on voit que c'est quelque chose de sombre, de pessimiste. C'est un truc qu'on va pas se marrer. Premier abord, parce que quand on se met à danser comme un taré dessus, finalement on finit par se marrer. Et c'est exactement en fait ce qui se passe à l'écoute de l'album, qui vraiment regorge de titres qui sont tous provocants, explosifs. J'ai même envie de dire parfois assez virulents. C'est un groupe qui, un peu à l'instar de, alors dans un genre complètement différent, hein, mais un peu à l'instar de Ginzu, dont je vous parlais dans le dernier Phase B, qui manie vraiment avec une maestria assez étonnante les ruptures et les genres. Et donc vous l'aurez compris, moi c'est vraiment ma cam, ça, ce genre de groupe. Et en fait, cet album, il est plein d'inventivité. Et je trouve qu'ils arrivent à renouveler vraiment un post-punk qui globalement tourne un peu en rond avec le temps qui passe. Et là, il lui donne une seconde jeunesse avec en lui injectant justement plein d'autres genres, plein d'autres techniques, et notamment un peu d'électro qui passe bien. Donc c'est un premier album. Ce premier album, qui pour l'instant est le seul, il m'étonne, parce que j'ai trouvé ça, je le trouve très mature. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti directement sur scène. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un jeune groupe, quoi. C'est des mecs qui sont là depuis super longtemps. Et en fait, à l'écoute de l'album, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à nouveau. Et c'est vraiment très mature, c'est très précis. Alors, c'est très excité. C'est vraiment, on est faut ça nous met le tensiomètre, ça nous fait péter un peu le tensiomètre là, donc c'est plutôt chouette à écouter. Mais tout ça, c'est fait avec une maîtrise bluffante, quoi. C'est pas de l'excitation de jeunes prépubères. Y a vraiment quelque chose d'assez, comment dire, d'assez, c'est presque vengeur la manière dont le chanteur qui s'appelle Cal Francis, la manière qu'il a de balancer ses paroles, c'est presque vengeur. Il a une palette d'expressions orales qui est assez large, avec des chansons qui sont parfois chantées, qui sont parfois marmonnées, qui sont parfois parlées. Et il va vraiment alterner les deux, même au sein même d'une même chanson. Et
il s'appelle Cal et il fait de la musique chou.
C'est ouais, alors chou, c'est pas très mignon.
Alors en parlant de tout ça, je pense que tu mérites la porte. C'est Cal qui te le dit.
Comme ça, tu l'ouvriras plus.
Il va à la boulangerie. C'est le calepin.
T'y vas pas à demi, toi.
J'étais en train de chercher s'il y avait... Non, j'y vais à fond. De calme. Désolé.
Oh, pensez qu'il y a l'eau.
Oui, alors du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, non. En termes d'instru, on est vraiment sur des guitares hyper abrasives, sur une batterie bien lourde. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça répond de manière un peu magique à la voix du chanteur dont je ne citerai plus le nom. parce qu'en fait, cette voix, en fait, elle va soit se calquer sur la violence de la musique, soit elle va partir dans quelque chose de complètement différent, dans quelque chose de plus presque enchanteur. Donc c'est ça, en fait, il va y avoir des contrastes chaud-froid perpétuellement entre la musique, le chant et inversement. Donc c'est le seul truc qu'il y a en commun dans tous les morceaux, c'est que ça reste très dépressif, ça reste très nihiliste. Ça reste très abrasif, ça reste très virulent, mais aussi c'est très cathartique, c'est-à-dire qu'on se défoule là-dessus. C'est absolument tourbillonnant et ça fait un bien fou à écouter, à s'énerver dessus. C'est vraiment c'est top, quoi. Donc dans ce premier album, moi, les chansons que je préfère, il y a la toute première, parce qu'en fait là, ce que je trouve intéressant dans cette première chanson, c'est que elle donne le ton tout de suite, quoi. C'est un album qui se cache pas, et dès les premières secondes de ce premier morceau, en fait, il y a toute l'essence du groupe qui apparaît. Avec, ça commence par une guitare hyper abrasive dès le début, hyper forte, hyper lourde. On se dit waouh, ça envoie du lourd dès le début. Et en fait, au bout de quelques secondes, grosse rupture, et on part dans quelque chose de plus dark. Et puis après, on revient sur la guitare. Donc vraiment, il y a tout ce qu'est le groupe, en tout cas dans cet album, est présent dès les premières secondes de l'album. Et ça, j'aime bien, en fait, quand c'est un manifeste dès le début. On est comme ça, on va faire ça. Bah, si vous aimez, vous allez kiffer, quoi. J'aime bien aussi leur premier single qui s'appelle Warden, qui est un morceau qui est assez inspiré, un peu plus mélodique que les autres, et qui lui est beaucoup plus dansant. Moi, c'est vraiment le genre de morceau sur lequel j'ai envie de me déhancher, de bouger la tête très fort, et de préférence bouger la tête dans un pub sordide du nord de l'Angleterre.
Et essaye d'éviter de déhancher la tête, parce que ça fait mal.
Ça fait très mal. Et je peux vous dire qu'après une première partie avec Dite, c'est une deuxième partie avec Idols, ouais. J'avais vraiment je m'étais déhanché la tête, ouais. J'en avais plus. Donc, ouais. Mais j'étais très content. Mon morceau préféré, c'est probablement un des morceaux qu'a évoqué Florian, qui s'appelle No Thanks, I'm Full, qui pourrait être en fait l'épitaphe de notre monde actuel. Et qui est en grande partie instrumentale, et qui est avec une basse hyper puissante, une batterie et une batterie très lourde aussi, et une guitare un peu psychée, mais qui reste en fond, Et vraiment, c'est un morceau qui c'est un truc à se retourner le cerveau tellement on part en transe là-dessus. Et enfin, le dernier morceau qui attire vraiment mon attention, c'est l'autre morceau dont parlait Florian, qui s'appelle I'm Kate Moss. Et là, pour le coup, c'est un son très fiévreux qui oscille entre une guitare assez transcendante et la voix complètement névrotique du chanteur. C'est un morceau, en fait, si vous voulez une image, en fait, c'est un morceau qui pourrait rythmer n'importe quelle scène de baston un peu poisseuse d'un film de Batman, en fait. Si on mettait ça sur le Batman de Matt Reeves, bah, en fait, je trouverais ça irait parfaitement, quoi. Donc, et en plus, le titre est intéressant, I'm Kate Moss, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le chanteur, c'est un mec qui a adopté un look très androgyne et qui vient sur scène habillé avec des habits qu'on considère normalement comme féminins. Euh,
Ouais.
donc, euh, donc le titre, témo... enfin, le titre parle de ça. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est un groupe qui aiment brouiller les genres et ils le font tellement à fond que même sur scène, même dans leur manière d'être, ils recherchent justement à brouiller ces genres et à effacer les frontières. Donc, tout ça est très cohérent. Moi, si je devais vous donner un conseil, ce serait vraiment de découvrir le groupe en live parce que honnêtement, c'est des bêtes de scène, quoi.
De toute façon, je pense que c'est le genre de groupe où en live tu les découvres vraiment, quoi.
Ah
C'est.
ouais. Bah, il commence déjà. Nous, il a commencé le concert directement dans la fosse, au milieu des gens.
Ouais.
Et enfin, c'était. Ils arrêtaient pas de slammer. Ils arrêtaient pas de. Mais tout en continuant à jouer correctement et tout. Enfin, c'était. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le chanteur. En fait, il a une attitude qui est très spéciale sur scène. C'est un mec qui a une grande nonchalance. Il a un côté. Alors, je pense qu'il était sous substance quand moi je l'ai vu, parce qu'il est vraiment dans son monde, il est vraiment dans un truc. Enfin, j'espère qu'il est sous substance parce que s'il est comme ça dans la vie, ça doit pas être facile. Mais il y a un côté, c'est toujours fait avec un côté très british en fait. Il y a,
Ouais.
c'est, c'est, et du coup, il y a une espèce de charisme qui se dégage de lui, qui est assez fascinant. Moi, honnêtement, j'arrivais pas à décoller les yeux de lui pendant tout le début du concert et je trouve qu'il gère son groupe, il gère sa scène comme un mec qui a 20 ans de concert
De scène,
derrière lui
quoi.
quoi.
Ouais.
Donc c'est honnêtement c'est super rare à voir et c'est vraiment enfin moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et je peux vous dire que le public il était dans un état assez fou à la fin du concert. J'avais jamais vu une première partie qui était aussi applaudie. Et d'ailleurs, les mecs d'Idols ont dit derrière que bah voilà, ils vénéraient. C'était un groupe qui vénérait carrément. Et donc ça vous pose le niveau du groupe quoi. Donc après, faut aimer les trucs d'excité, hein, faut aimer le truc un peu hardcore, un peu sombre, un peu dépressif. Mais si c'est le cas, franchement, vous allez trouver votre compte. Moi, à mon avis, c'est un groupe qui va monter très vite. Parce que globalement, moi, j'ai regardé un peu les comptes rendus de concerts qu'ils avaient fait ces derniers mois, et à chaque fois, c'est dithyrambique. Donc, je pense que très vite, on va en entendre parler plus fortement. Surtout que là, il y a un nouveau single qui est sorti, dont il y a déjà un remix qui a été fait, et c'est un single qui est assez fou. On a l'impression qu'il vient tout droit de il y a des voix qui viennent tout droit d'un asile psychiatrique, c'est assez délirant à écouter. Le remix
On
est
peut
assez
dire que c'est ton Arcam.
c'est ouais c'est ça ouais, mais vraiment on est toujours dans le même univers. C'est l'univers de Batman, de Gotham City, un truc un peu vénère, sombre. Voilà, donc le remix est assez dansant et assez délirant. C'est pas inintéressant à écouter. Disons que la chanson originale et le remix sont complètement différents, pas du tout dans la même tonalité, donc c'est intéressant à écouter. Et voilà, donc ça promet beaucoup pour le prochain album à venir, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'air de continuer sur leur lignée, et franchement, moi, en ce moment, j'écoute ça beaucoup, et j'ai pas. Des fois, j'entends des trucs bien en concert, et puis après, je vais écouter l'album, et je suis un peu je suis un peu déçu. Je retrouve pas la même énergie. Là, honnêtement, j'ai retrouvé le même délire et c'était. C'est vraiment un album que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Quoi.
Franchement, dans ce groupe, ça a l'air d'être vraiment des Caillouks. Pour des Choux.
C'est des bits.
Bon. Vu que tu as pris la parole, Florian.
Oui.
Quel est ta reco de cette semaine?
Ah, ben écoute, je suis ravi que tu me laisses ma part, encore une parole pendant 3 minutes, donc je vais volontiers me lancer dans.
Ah, j'ai absolument pas dit le temps. Hein.
Je t'avais prévenu que ça serait que 3 minutes et je vais m'y tenir puisque j'ai beaucoup moins bossé ça que le monsieur de Men Office. Du coup, c'est un autre artiste très 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 connu, un producteur anglais qui s'appelle Mark Ronson. Oui. Mark Ronson, j'ai juste envie. J'avais envie.
Et non pas Marc Repère.
Et non, ça c'est Leclerc. Bref. Qui l'avait pas vu venir. Du coup,
Marc Ronson. Tambours du Bronx. Quoi.
Donc. Mark Ronson qui avait un groupe qui s'appelait The Business International qui est sorti un album en 2010 que je vous recommande qui est un de ses moins connus et en fait c'est difficile en fait étant donné que maintenant c'est un producteur qui peut depuis 20 ans est extrêmement demandé ses oui. singles ont tourné un tout petit peu partout tout le monde connaît Uptown Funk, tout le monde connaît l'album dont est tiré Uptown Funk, donc ça je vais pas y revenir dessus. C'est le producteur exécutif de Barbie The Album, c'est lui qui a fait I'm Just Ken, qui a failli gagner l'Oscar, mais voilà. Voilà. Et Mark Ronson, ce qui est très intéressant, c'est que juste avant Version et juste avant d'exploser en fait avec Amy Winehouse, c'était en 2006, c'était un jeune DJ, certes, voilà, qui était un fils à papa, puisque son père c'est Mick Ronson de Foreigner. Ouais.
Tiens, bonjour le Nepo Baby.
Et j'avais envie de prendre 2 petites minutes pour vous recommander son premier album sorti chez Elektra en 2003 qui s'appelle Here Comes the Fuzz, qui est un petit précis vraiment très très fun. Et à l'époque, le jeune Mark Ronson en fait était un DJ qui déchirait pas mal de fêtes à New York. Qui était vraiment faisait vraiment le circuit de voilà des toutes les fêtes les plus huppées un tout petit peu comme sa sœur qui s'appelle Samantha Ronson qui fait exactement la même chose que lui qui est aussi DJ et c'était vraiment ses premières armes en tant que producteur donc lui il était beaucoup plus axé producteur axé hip hop et le single dont qui a eu un certain succès s'appelle Oh Oui et c'est un sample de Boney M et sur Boney M en fait on
c'était sur l'album Chambourcy
c'est ça et on te fait poser Ghostface Killah sur, et Nate Dogg, en fait, sur un sample de Boney M, ce qui est quand même assez, assez osé, si tu y penses un tout petit peu. Et le reste des titres est vraiment à l'avenant. Il y a un titre avec un de ces artistes qui est assez sous-estimé, qui s'appelle Dan McGregor, qui reprend un tout petit peu un groupe de funk qui s'appelle Average White Band. Tu as l'avant-dernier titre qui s'appelle qui est avec Q-Tip, tu as un rappeur qui s'appelle Saigon qui vient poser dessus. C'est vraiment une espèce d'auberge espagnole qui est très axée hip-hop R&B, c'est très dansant. C'est beaucoup moins abouti et ça part beaucoup plus dans tous les sens que les albums suivants qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup mieux produits, qui ont beaucoup plus de direction artistiquement. Mais honnêtement, pour un album qui va avoir 21 ans cette année, je pense que c'est une belle représentation de tout le potentiel qu'il pouvait avoir à cette époque-là et qu'il a confirmé ensuite par la suite. Donc voilà, Mark Ronson, Here Comes the Fuzz, c'est sur toutes les plateformes, c'est 45 minutes de bonheur. Voilà.
Bien, merci. C'était efficace, dis donc. Je suis ébobie, surpris. Je suis tellement efficace que j'ai même déjà fait le tweet pour parler du podcast. On n'a même pas terminé. Je suis comme c'est... dans l'incroyable, enfin la folle histoire de l'espace où ils ont la cassette du film pendant le film.
Et dans le prochain, phase B, on fera un spécial Foreigner.
Oh, s'il te plaît, oui.
Je ne connais rien à Foreigner, donc tu seras tout seul. Ah, je t'écouterai.
Je peux te raconter l'histoire de Foreigner. J'adore ça.
Tu nous racontes une histoire, tonton Fred?
Ah ouais, si tu veux, je peux te raconter l'histoire de Foreigner. Ils ont eu plusieurs périodes.
Dont la Légion étrangère.
Non, pas vraiment. Non, mais bon, merde. Ça me rappelle un podcast que je devais lancer et que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas le temps. Hein? Bon, bref, comme beaucoup d'autres. Mais, je retiens pour, qui sait, peut-être la saison prochaine. On verra. Bon, ben on a fait le tour, on a parlé de musique, réellement, tout le monde, hein, voilà, même avant, on a aussi un peu de cinéma et de jeux vidéo, hein, avec donc la salle des profs, qui est actuellement au cinéma, mais je pense qu'il va falloir chercher le cinéma.
Il va falloir se dépêcher surtout, ouais.
Il va falloir se dépêcher, parce que c'est pas le genre de film qui va rester très très longtemps. This Bade We Made, aussi, qui est sur, PlayStation, Xbox et PC. Justin Timberlake, vous savez ce qu'on en pense. Vous l'avez entendu ici. Bref. Plein de bonnes choses. Tout ça. Et la semaine prochaine, c'est un Monsieur Siri and Friends. Je sais plus si on avait mis un truc. Je pense que c'est du freestyle. Parce que la semaine dernière, on était à Serimania. Du jour pour jour, l'épisode est disponible depuis vendredi ou jeudi soir. Et on espère que ça vous plaît, parce que là, on parlait aussi de musique. Tiens donc.
Oui. La cohérence de notre ligne éditoriale est incroyable.
Oui, elle se fait toute seule. Notre ligne éditoriale est une IA toute seule. Elle s'autogère. Si elle pouvait s'auto-financer. J'ai rien dit. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et dans 2 semaines pour un autre Phase B. À bientôt.
Salut.
Salut.